France Inter, le 7-9.
7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est Gilet Jaune de l'Indre.
Bonjour à vous Jean-François Barnaba.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On vous présente comme Gilet Jaune de l'Indre, mais pouvez-vous nous dire en quelques mots, qui êtes-vous au-delà de cette appellation désormais contrôlée? D'où vous venez et à quel moment vous avez décidé de vous mobiliser?
Je suis dans le mouvement depuis le premier jour. J'ai participé au premier blocage, naturellement, le 17. On avait bloqué le pont sur la Creuse, qui au sein de la commune du Blanc. Enfin, c'est un petit peu le passage entre le département de l'Indre et le département de la Vienne. Donc, vous voyez, c'est la France profonde. Et sur les réseaux sociaux, j'ai tout de suite échangé avec tous ceux qui étaient impliqués dans le mouvement. Mmh. Et c'est comme ça que
vous êtes devenu un des visages.
Un des visages.
Alors, on apprend ce matin que faute de participants, puisque tous les gilets jaunes invités ont décliné, eh bien, la réunion des gilets jaunes à Matignon vient d'être annulée. Une réaction?
Oui, écoutez, ça me paraît logique. Il n'est pas souhaitable de procéder de la politique de communication de Matignon.
Pourquoi vous dites politique de communication? Pourquoi est-ce que vous avez tous décliné cette invitation-là au risque de passer pour ceux qui ne veulent pas dialoguer, ceux qui refusent de la main tendue en fait?
C'est-à-dire qu'il y a urgence, vous comprenez? Je me suis toujours efforcé dans ce mouvement de traduire la position consensuelle au sein des Gilets jaunes. Et le fait est que sur tous les ronds-points, on entend que il y a une urgence absolue qui est d'annoncer des mesures fortes en matière de pouvoir d'achat. Vous savez, on est le 4, si je me trompe pas, on est le 4 décembre et aujourd'hui, il y a des millions de Père Noël qui savent pas comment ils vont faire. Mmh. Voilà. Donc il faut des mesures maintenant.
Beaucoup disent qu'ils ne sont pas allés à Matignon parce qu'ils sont menacés de mort. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez été menacé de mort?
Ah non, moi je n'ai pas été menacé de mort. Maintenant, je peux pas vous répondre sur ce qu'on pourrait m'adresser comme message en ce moment parce que je ne peux plus accéder à mon compte Facebook ni à ma boîte mail.
Comment c'est possible ça?
Ah ça, écoutez.
Depuis combien de temps?
Je ne veux pas me lancer dans des propos complotistes.
Non,
je
non,
constate.
Non, mais sans faire de complotisme, depuis cette nuit, c'est ça, vous n'avez plus accès ni à votre mail ni à votre Facebook.
Plus rien.
Vous avez réessayé ce matin?
Oui, tout à fait.
Bon, mais comment c'est possible qu'il y ait des menaces de mort contre d'autres?
Oui, mais vous savez, à ma connaissance, il est peu probable qu'une menace de mort soit envoyée avec une localisation et une personnalisation possible. Donc la menace de mort peut venir de n'importe qui. Alors on a tendance à dire que ce sont des gilets jaunes contre d'autres gilets jaunes. À quel titre peut-on dire cela? Moi, je n'en sais rien.
Mais je ne sais pas si ce sont des gilets jaunes contre des gilets jaunes, mais on a quand même l'impression que vous vous méfiez tous les uns des autres. Que dès qu'il y en a un qui parle, les autres le disqualifient immédiatement, que vous avez du mal, au fond, à vous entendre. Est-ce que c'est vous faire un mauvais procès que de dire ça?
Oui, un petit peu. Parce que, vous savez, c'est un mouvement, je pense que vous le mesurez, d'ampleur exceptionnelle. On n'a jamais vu la France mobilisée à ce point-là. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu de mon vivant. Alors, vous savez que... L'État français a mis des siècles à structurer administrativement le pays. Alors vous imaginez des gens comme ça, sur un mouvement spontané, individuel, pour structurer sur toutes les communes de France, des millions de gens qui sont engagés.
Oui, mais
c'est une tâche énorme.
Mais je
vous assure que la préoccupation est constante. Elle est constante. Regardez, aujourd'hui, nombreux sont les gilets jaunes qui essaient de perfectionner le vote électronique, auquel je rappelle, je ne pouvais pas participer, pour désigner de façon un peu plus démocratique, c'est-à-dire sur la base de profession de foi, des représentants. Ouais. Ça prend du temps, c'est compliqué. Alors, naturellement, dans ce moment aussi, il y a des gens qui ont envie d'émerger. Alors forcément, il peut y avoir, naturellement, des petits conflits d'égo, des choses comme ça. Mais c'est pas très important.
Pas très important, mais au fond, ce qui est important, c'est que vous ayez dans les prochains jours quand même un ou deux ou trois porte-parole désignés, qu'on puisse dire, il y a un numéro de téléphone. Je veux dire, Kissinger disait il y a 50 ans, l'Europe, quel numéro de téléphone? Les Gilets jaunes, quel numéro de téléphone?
Oui, il est souhaitable, plutôt possible, d'avoir une forme d'unification qui rende le discours plus cohérent. Mais je crois que quand on veut avoir l'information, vous savez, moi j'entends le gouvernement qui dit on ne sait pas ce qu'ils veulent. Enfin, faut arrêter. Enfin, c'est impossible d'entendre des choses pareilles.
Mais...
On sait bien bien. Bien sûr qu'il y a des plateformes qui circulent, alors où il y a énormément de choses. Mais
ça,
on sait bien que, quand même, et je me suis efforcé de le faire, et je pense avoir été très médiatisé au cours de ces derniers jours, il y a, vous savez, il y a quatre grands axes qui réunissent de manière consensuelle.
Alors, dites-nous, pour être clair.
C'est la baisse des taxes. Hein. La baisse, je dis bien la baisse des taxes.
Ah non, vous dites pas moratoire, vous dites baisse des taxes.
Ah non, je dis la baisse des taxes, c'est très important.
Si aujourd'hui, Édouard Philippe annonce un moratoire sur la
hausse... Oui, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Un moratoire, ça veut dire quoi concrètement pour les gens? Ça veut dire qu'au lieu qu'on leur en prenne encore davantage, on va leur prendre seulement ce qu'on leur prend actuellement. Mais c'est trop ce qu'on leur prend actuellement. Donc
pour être très clair, vous demandez la baisse des taxes.
La baisse des taxes,
le deuxième point, c'est quoi?
Le deuxième point, c'est l'augmentation des salaires et des pensions. Il est évident qu'avec 1188 euros, les gens, et évidemment, là je parle de gens qui sont au SMIC, hein, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui ont un emploi à temps plein. Bon, alors vous imaginez les temps partiels, les précaires qui sont à 800, 900 euros par mois.
Ça, c'est le invivable. Donc, ça, c'est le deuxième point.
Et les pensions indécentes, 900 euros par mois quand on est retraité. Bien, donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la restauration des services publics. C'est insupportable de les voir tous disparaître. Moi, c'est normal, je suis du blanc. Je porte la volonté farouche des marcheurs qui font Leblanc, Paris à pied parce qu'on a supprimé la maternité du blanc, que malgré la mobilisation de tous les élus, de tous bords, à tout niveau, il n'y a rien à faire parce que des gens qui ont un tableau Excel à la place du cerveau ont décidé qu'il fallait que la maternité ferme, que les femmes fassent une heure de route pour pouvoir être en sécurité.
D'accord, bon, ça c'est la troisième. Et la quatrième.
Et la quatrième, et ben c'est une réforme des institutions qui démocratisent la vie publique. Hein, parce que les citoyens ne peuvent pas, dans un intervalle de 5 ans, s'ils considèrent que les engagements pris ne sont pas tenus, s'ils considèrent qu'ils ont été floués au départ, ce qui est le cas. Macron a donné un espoir important à des gens qui se sont dit « Ah ben ça y est, maintenant c'est plus les politiques comme avant, ça change, c'est un nouveau paysage. » Et puis finalement, la situation n'a fait que se dégrader.
Monsieur Bardaba, sur quelle base démocratique vous demandez ça au président de la République qui a été légitimement élu avec 66% des voix il y a un an et demi? Sur quelle base vous lui dites « changez votre politique » alors qu'il a là, ce qu'on appelle dans un système démocratique tel que le nôtre, la légitimité du peuple, des urnes en tout cas?
Oui, mais je n'ai pas l'impression que le président Macron s'est fait élire sur l'idée que le niveau de vie des Français allait et devait baisser au cours de son mandat. Hein. Je crois, moi, qu'il s'est fait élire sur l'idée, au contraire, que la France allait rebondir. Et quand les gens entendent ça, ils entendent aussi « ma situation va s'améliorer, donc ». Alors, si vous promettez cela, et qu'en réalité, c'est un lent recul des classes moyennes qui se sentent menacées de déclassement, et des classes populaires qui voient leurs conditions encore dégradées...
Mais dans ces cas-là, il y a des élections. Il y a des élections qui arrivent dans 6 mois, il y a des européennes. Est-ce qu'il faut une liste gilets jaunes aux européennes, par exemple?
Ça, personnellement, je vous assure que j'y travaille avec une intensité et un engagement total, parce que je crois effectivement pour qu'on change complètement de paradigme en matière de notamment de politique économique, il faut que ce soit des gens issus des classes populaires qui ont toujours délégué, qui n'ont jamais investi, par exemple, le Parlement massivement. On sait bien quelle est la composition sociologique du groupe majoritaire. Des professions libérales, des cadres supérieurs, etc.
Donc oui, il y aura...
Il faut une grande modification.
Merci beaucoup Jean-François Bardaba d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter et belle journée à vous.